Aujourd'hui, nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 15 et le sujet, c'est la victoire sur la mort. La victoire sur la mort. La gloire de l'Évangile est justement la victoire sur la mort. Dieu a créé Adam à vivre. Mais du moment que Adam a péché, il est mort. Premièrement, il est mort spirituellement, donc il a été séparé de Dieu. Et puis, plus tard, il est mort physiquement, quelques 900 ans, plus de 900 ans plus tard. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est venu justement pour faire revivre les morts. Pour faire revivre les morts. Il fait revivre les morts par sa mort et sa résurrection. Donc, il faut comprendre que la résurrection de Jésus-Christ est à la fois la preuve de notre pardon. Il est mort sur la croix pour payer pour nos péchés. Donc, Dieu peut nous pardonner sur la base de ce que Jésus a payé sur la croix. Et la résurrection montre la victoire de Jésus-Christ sur la mort. C'est la victoire sur la mort. C'est le sujet aujourd'hui, la victoire sur la mort. Donc, je vais couper, globalement, on va faire verset par verset. Je vais donner un petit résumé avant qu'on lit le texte. On va lire le texte, je ne vais pas commenter beaucoup parce que c'est extrêmement long, le chapitre 15. Mais je vais commencer au verset 12. Et puis, plus tard, on va revenir prendre verset 1, etc. Donc, vous savez bien, l'église de Corinthe avait beaucoup, beaucoup de difficultés. Et d'après ce que j'ai pu voir dans sur l'Internet, le livre de 1 Corinthiens, c'est peut-être le... Donc, il y avait 1 et 2 Thessaloniciens qui étaient écrits avant. Et peut-être Galates, peut-être pas. Et après, c'est 1 Corinthiens. Donc, c'est écrit aux environs de l'année 57. C'est un des premiers épîtres écrits. Et tout va s'écrire par la suite et dans les prochaines quelques années. Donc, c'est assez au début du christianisme que Dieu a inspiré le texte de 1 Corinthiens parce que les Corinthiens avaient ces problèmes. Donc, les Thessaloniciens avaient des problèmes concernant le retour de Jésus. Après, les Galates avaient des problèmes concernant la loi de Moïse. Les Corinthiens avaient des problèmes de tout ce qui avait un rapport avec la vie. Et donc, on a vu à travers tous les divers chapitres, les mardis soirs, on a traité tous ces problèmes et aujourd'hui, on voit qu'il y a quelques personnes dans l'église de Corinthe qui ne croyaient pas à la résurrection. Alors eux, ils disent simplement que voilà, le corps n'est pas bon, donc Dieu ne va pas ressusciter le corps mort. Ça va rester dans la tombe, devenu de l'engrais, comme pensent beaucoup d'athées aujourd'hui. Et donc, c'est pour cela que le chapitre 15 va montrer que non, il faut croire à la résurrection. Ça fait partie du christianisme. Paul dit que renier la résurrection revient à renier la résurrection de Jésus-Christ. Et renier la résurrection de Jésus-Christ revient à renier la foi chrétienne. C'est tous la même chose. Et on voit ça dans les versets 12 à 19 que nous allons lire maintenant. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si la foi n'a qu'une utilité dans la vie et qu'il n'y a pas une suite dans l'éternité, c'est vraiment bête. C'est vraiment inutile parce que tous les plaisirs du monde que nous n'en profitons pas parce que nous voulons honorer Dieu, eh bien, s'il n'y a pas une suite à la vie, nous gaspillons tout le temps qu'on a. On aurait pu faire tous comme le reste du monde, comme il dit dans le contexte, il dit « Mangeons et buvons car demain nous mourrons. » Si c'est tout ce qu'il y a. Vous voyez? Après, Paul traite la question « Pourquoi la résurrection? » Le péché a engendré la mort et par la résurrection, Dieu fera revenir à la vie toute personne. Car Christ a vaincu la mort. Donc on va voir ça dans les versets 20 à 28. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire Adam, c'est aussi par un homme, c'est-à-dire Christ, qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne, donc là on parle du royaume, du millénium, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. C'est-à-dire, Dieu le Père n'est pas soumis à Christ. C'est Dieu le Père qui autorise que toutes choses soient soumises à son Fils. Et à la fin, le Christ remettra tous au Père qui est l'autorité de toutes choses. Donc il dit, et lorsque toutes choses lui, donc Christ, lui auront été soumis, alors le Fils lui-même sera soumis à celui, donc le Père, à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc la résurrection est très importante pour l'ordre de l'univers, l'ordre même, l'ordre éternel. Il faut que tout soit mis à sa place. Et les choses étaient gâché quand Adam a péché. Et nous, on subit toutes ces choses, même aujourd'hui, toutes les questions de maladie, de souffrance, de pauvreté, de dérèglement, de pollution, toutes les choses reviennent aux premières causes. Ce n'est pas la première cause, la création, mais la première cause étant le péché qui a déclenché toute la dégradation qui ont suivi. Par la suite, Paul va dire, alors vous qui ne croyez pas à la résurrection, à quoi bon se faire baptiser? À quoi bon enterrer les morts? À quoi bon être martyr si les morts ne ressusciteront pas à la vie? Ceux qui n'ont pas d'espoir, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas un espoir pour avoir une vie après la vie, après la mort, ils agissent mal pendant la vie. Les gens qui nous entourent, qui se disent qu'il n'y a pas de Dieu et qu'il n'y a pas de vie après la vie, eh bien, ils vivent comme s'il n'y avait rien par la suite. Ils font les bêtises, ils font les péchés, ils font les vols, ils font tout un tas de choses. Ils vivent égoïstement parce que pensent-ils qu'il n'y aura jamais à rendre compte pour la vie. Et donc, Paul dit, attention à vous, si vous commencez à croire qu'il n'y a rien, que le christianisme n'est que pour cette vie et qu'il n'y a rien par la suite, vous aussi, avec cette idée-là, vous allez commencer à faire des mauvaises choses. OK? Donc ça, c'est dans les versets 29 à 34. Oh, et je voulais dire, personne ne comprend le verset 29. Le 29, il y a une quinzaine de théories de ce qu'il veut dire par ce verset. Donc, moi, je ne vais pas même annoncer quelles sont toutes les théories. C'est un peu bizarre comme verset. Lui savait ce qu'il voulait dire, mais nous, on est un peu perplexes. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Vous allez voir. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Donc, je ne propose aucune suggestion, ok? On va passer. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Par la suite, on va revenir au verset 1, au verset 1 et 2. Ainsi, un évangile sans Christ ressuscité est inutile. Il faut croire à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il faut croire que Christ est ressuscité. Il faut croire que nous allons ressusciter. Et il faut croire que les injustes vont être ressuscités. Un Christ mort ne donne aucun espoir. Un Christ mort. Si Christ est toujours dans une tombe quelque part, ça ne donne rien. Ce n'est pas utile de croire en lui s'il n'est pas revenu à la vie. Donc là, c'est versets 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, j'ai mis ce verset dans notre discours aujourd'hui, après l'explication des choses. Donc, Paul fait une affirmation dans le verset 1 et 2, et puis il va expliquer ce qu'il veut dire. Donc, vous avez bien compris. Si une personne croit en Jésus non ressuscité, morte sur la croix et non ressuscité, donc toujours dans la tombe,
eh bien, un évangile comme ça n'a aucune valeur. Une personne qui croit à ça n'est pas sauvée. On est sauvé par un Christ qui est mort et ressuscité. Un Christ qui a payé pour nos péchés et dont le sceau de Dieu était sur son sacrifice en le ressuscitant. Un Christ qui est revenu à la vie et qui nous promet à nous tous une résurrection. Vous voyez, c'est ça qu'il veut dire dans le verset 2. C'est pas que, voilà, on peut croire et puis se perdre et tout ça. Non, c'est pas le point. C'est que si on a un évangile défectueux au début, si on croit à un évangile défectueux, eh bien, c'est pas la foi. La foi n'a pas plus de valeur que la chose dans laquelle on croit. Et si on croit dans un Christ qui n'a pas tout payé, ça vaut rien. S'il n'a pas payé pour tous nos péchés, ça c'est comme s'il n'a rien payé. Et s'il est toujours mort, il n'est pas ressuscité, c'est comme il n'a rien payé non plus. Donc il faut un vrai évangile, comme il va nous l'expliquer ici dans les versets qui suivent. Donc au verset 11, il dit, Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, donc les autres apôtres, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Donc il dit, voilà, je vous ai expliqué l'évangile dans les versets auparavant et je vais le faire maintenant aussi pour vous. Hein, verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, c'est-à-dire les Écritures, l'Ancien Testament avait prophétisé que le Christ devait venir, il devait vivre comme il a vécu, il devait être mis à mort, il devait être enseveli et il devait ressusciter. Toutes ces choses sont dans les Écritures juives, dans l'Ancien Testament. C'est les prophéties à propos de Jésus-Christ. Et ces choses étaient toujours là, et il a accompli les prophéties comme c'était prophétisé. Par la suite, il dit, donc, ressuscité le troisième jour, verset 5, et il est apparu à Céphas, donc Céphas et Pierre, puis aux douze, donc ça c'est dans les évangiles, cette partie-là. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Bon, là, ce n'est pas dans les évangiles, mais Paul nous le dit. Et il dit, si vous ne me croyez pas, vous allez en Israël et vous posez des questions, dont la plupart sont encore vivants, bien que quelques-uns sont déjà morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après, eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, donc les apôtres, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. On croit en l'évangile. L'évangile est un événement historique. C'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. C'est un événement historique. Ça ne peut pas être répété pour chacun. Il faut simplement croire à ce que Jésus a fait il y a environ 2000 ans. Donc, ceux qui croient à cet évangile que Paul a prêché, ceux qui croient à l'évangile se font baptiser. Ils se font baptiser, pourquoi? Pour dire que, donc, je vais le mettre dans le personnel. Je crois à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, je me fais immerger dans l'eau. On me met dans l'eau et on me ressort de l'eau. Je crois à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Aussi, je crois à ma propre mort au péché et que je dois vivre dans une nouvelle vie, une nouveauté de vie. Je suis une nouvelle création en Jésus-Christ grâce à l'Évangile. Et je crois que mes péchés sont pardonnés et que, au moment convenu, je vais être ressuscité pour vivre éternellement dans mon corps de résurrection, dans la présence de Dieu. Par la suite, Paul donne une explication de la logique de la résurrection tirée des exemples de la nature. Donc, c'est le verset 35 à 41. Je ne vais pas les lire tout de suite parce que je veux gagner un petit peu de temps, mais vous pouvez les lire. C'est simplement les exemples tirés de la nature pour montrer le fonctionnement de cette idée de résurrection. Mais ce qui nous concerne plus, c'est par la suite, à partir du verset 42, il va donner, déjà dans le verset 50, il donne lui-même un résumé. Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Il faut une transformation. Donc, tous les exemples de la nature qu'il a donné dans les versets que je n'ai pas lus montrent qu'il faut un changement. Et Paul dit que nous sommes mortels, nous sommes des pécheurs, et il faut une transformation pour que nous puissions être adaptés pour la vie auprès de Dieu dans l'éternité. Donc, les mortels deviendront les immortels. Les morts deviendront les revivants. OK? On va lire le verset 42 à 50, et puis 53 et 54. 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Donc, en faisant référence aux exemples qu'il a donnés sur la nature. D'accord? Le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Le corps, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Le corps, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Si il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi, donc, ce corps spirituel, ça veut dire adapté à une vie éternelle dans les lieux célestes. C'est plus notre corps tel que nous avons aujourd'hui qui peut mourir, qui peut être abîmé, coupé, etc. Mais là, c'est un corps ressemblant au corps du Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Un corps donc qui mangeait, qui se chauffait et qui traversait les murs. Un peu différent que ce que nous avons, parce que quand nous on peut passer le mur, bon, ça fait mal. OK? C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Il va nous faire revivre. 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel qui est premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. On est aujourd'hui en forme ressemblant Adam et Ève, et dans l'éternité, nous allons ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Verset 50, « Ce que je dis, frère, c'est le verset que j'ai déjà lu, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Verset 53. Je saute et je reviens par la suite. « Car il faut que ce corps corruptible revête
l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. On parle de la victoire sur la mort. Par la suite, on va revenir voir versets 51-52, la résurrection et la transformation au moment de l'enlèvement. Alors, je vais expliquer quelque chose premièrement. Donc, dans la Bible, on parle de la première résurrection et la seconde résurrection. La seconde résurrection est la résurrection à la fin du temps où Dieu va condamner tous les non-croyants et ils vont être mis dans le lac de feu. Le lac de feu, c'est la seconde mort. Okay? C'est la seconde résurrection, c'est la seconde mort, ceux qui vont être condamnés. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que tous participent dans la première résurrection. Et il appelle ça la première résurrection. La première résurrection, c'est la résurrection à la vie. Okay? Mais c'est un peu complexe. Okay? C'est en plusieurs parties. La résurrection à la vie a lieu en première étape. Jésus-Christ est le prémisse. Lui, il est ressuscité il y a 2000 ans. Mais ça fait partie de la première résurrection. Plusieurs saints sont revenus à la vie après la crucifixion, donc après la résurrection de Jésus. Donc, ça fait partie de la première résurrection. Ils sont ressuscités à la vie. Avant la tribulation, les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront enlevés et transformés. Ça, c'est le verset qu'on va lire tout de suite. OK? Mais ça fait partie de la première résurrection, la résurrection à la vie. Par la suite, il y a les deux témoins prophètes qui vont être mis à mort à la fin de l'Apocalypse et ils vont revenir à la vie. Et enfin, les martyrs de la tribulation vont être ressuscités aussi à leur temps. Okay? Donc, il y a plusieurs étapes, si vous voulez, à cette résurrection, la première résurrection. Ça s'appelle la résurrection à la vie. En plusieurs parties. Hein? Il n'y a pas cinq vies différentes. C'est la même vie. On a tous la même chose. La vie éternelle auprès de Dieu dans le corps qui, comme on va lire ici dans versets 51-52, le corps sera transformé, adapté à cet état éternel. Donc on va lire maintenant 51-52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, transformés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revêtent l'incorruptibilité et que ce mortel revêtent l'immortalité. Donc, les morts en Christ, premièrement, donc ceux qui sont déjà morts depuis longtemps, vont être rappelés à la vie, changés, et nous serons transformés, donc nous, les derniers croyants vivants au moment que ça a lieu, donc peut-être pas nous, mais les nous de ce moment-là, seront transformés dans un clin d'œil pour suivre ceux qui étaient ressuscités. Donc, ces quelques personnes, on ne sait pas le nombre, ne vont pas passer par la mort. Ils seront traduits dans cet autre état, comme il dit, dans un clin d'œil. OK? Donc, à la fin du chapitre, versets 55-57, nous revenons à ce thème, Christ a vaincu la mort. La mort n'a plus de puissance permanente parce que Christ a vaincu la mort.
OK, donc on va lire les versets, puis on va voir deux, trois autres choses. 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. C'est-à-dire, la puissance de la loi, c'est la punition de la loi, c'est la condamnation, c'est la mort. Donc, c'est parce qu'on a transgressé la loi de Dieu que nous méritons donc la mort. Mais voilà, on n'est plus sous cette loi-là. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la victoire. Ce n'est pas qu'on paye la victoire. Il nous donne la victoire. Je vais revenir sur l'autre verset tout à la fin. Je voulais lire dans Apocalypse chapitre 20, au verset 14. Apocalypse chapitre 20, au verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Donc on voit dans ce verset que la mort et le séjour des morts sont jetés dans l'étang de feu. Tout à l'heure, on a lu que le Christ devait tout soumettre, même la mort, devait être soumis, mis sous les pieds de Jésus. Et c'est la dernière chose, c'est le dernier ennemi. Et dans le schéma de l'Apocalypse, le dernier ennemi, c'est la mort. La mort est là où se trouvent les morts, le séjour des morts. Tout est soumis à Christ, OK? Et aussi, donc, dans Apocalypse chapitre 2 et 3, donc, on a parlé de ça dans l'étude sur l'Apocalypse, mais chaque église, avec chaque église, on retrouve la phrase « Celui qui vaincra ». Sept fois, ça c'est que cinq années, sept fois, on voit l'expression « Celui qui vaincra ». Parce que c'est les affirmations, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, ce n'est pas les mises en doute. Ah, mais si je n'arrive pas à vaincre. Non, c'est les affirmations, vous allez vaincre. Et celui qui vaincra recevra donc de telles choses. Comment je sais? Regardez donc dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Donc Romains chapitre 8 qui suit le chapitre 7. Chapitre 7. Nous mettait dans quelque part dénuder notre humanité, notre vie de péché, ce que nous sommes dans notre humanité, et que nous sommes sans espoir, sans Jésus-Christ mort et ressuscité. OK? Donc on arrive à Romains chapitre 8, où il dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Verset 2, « En effet, la loi de l'esprit de vie » en Jésus-Christ, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, j'ai lu ça tout à l'heure, dans 1 Corinthiens chapitre 15, qu'il y avait ce problème-là. Mais non, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes affranchis, libérés. Donc, on peut sauter au verset 37, Romains chapitre 8, verset 37, ça vaut la peine de lire tout le chapitre, d'accord? On n'a pas le temps de tout lire, mais on saute au verset 37. Mais dans toutes choses, nous sommes plus que perdants. Non, pas du tout. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et comment peut-on être vainqueur? Par celui qui nous a aimé. C'est grâce à Jésus que nous sommes vainqueurs. Il nous donne la victoire. Il faut y croire. C'est tout. Nous allons vaincre. Pas parce que nous sommes capables de vaincre, mais parce que Jésus a déjà vaincu. Il nous rend vainqueurs. Il nous donne la victoire. Amen. Donc, on va voir, puisque en Jésus-Christ, nous avons la victoire, aujourd'hui et pour l'éternité, que faire? Et ça, c'est le verset 58 que nous n'avons pas lu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ça revient à 1 Corinthiens chapitre 13, où il dit, trois choses demeurent éternellement, donc la foi, l'espoir, l'espérance et l'amour. Et l'amour, c'est justement l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail, le travail de notre amour dans le Seigneur ne sera pas vain. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.